La CVR. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Ça va pour cette fois, la panique. Et il est même le frère du Malarnia. Il paraît qu'il s'est dédicé. J'en demandais une caisse. Elle s'éloigne. Pendant ce temps, M. Tremblant va vers M. Beaulieu. Il lui dit : Dites, mon brave. M. Beaulieu, distrait, on l'appelle comme ça. M. Tremblant lui dit : C'est que vous avez la différence avec monsieur Recourtois. Je vous demande, même je vous donne l'ordre de ne plus nuire ni de toucher à ce jeune homme. Il est intouchant. Vous comprenez? Si vous lui dites, oui, monsieur le président. Romain le dit, si vous touchez à un cheveu de ce jeune homme, je supprime vos commandes, rachète vos entreprises et vous n'avez plus l'humilité tremblant. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, monsieur le président. Romain lui dit, calmez aussi votre femme. Elle nous fatigue avec ce qu'elle dit de monsieur Recourtois. Sa colère haineuse devient ridicule. Vous avez compris? Oui, monsieur le président. Bien. Le soir, en se déshabillant dans leur chambre, il lui dit « Tu ne dois plus chercher à nuire à Cliff. Le président m'en a parlé. Et si tu continues à le dénigrer ou à l'accuser de quelque chose, nous sommes perdus. Il me l'a bien fait comprendre. Nous finirons tous les deux dans les rayons du supermarché pour aliments pour chiens. Tu as bien compris ?» Elle lui dit, « Oui, je te le promets, je ne toucherai pas à ce jeune homme et ne parlerai plus de lui. » « C'est bien, ma chérie. » Il l'embrasse au front et lui dit, « Une page est tournée. La vie doit continuer. » Un matin, ils prennent tous les deux leur petit déjeuner. Il lui demande, « Tu as toujours l'intention de faire les couturiers ?»«
Oui. »«
Bien, moi, je vais m'absenter quelques jours pour mes affaires. Je te laisse à Paris. Mais attention, sois sage. Je te fais confiance. Tu as compris ?»«
Oui, n'aie pas peur. Fais-moi confiance. »
Et elle reste seule. Décide d'aller à Vue de l'Opéra en voiture. Là, elle passe sa journée, fin de journée, et même le soir des fois. Elle surveille l'immeuble et les allées venues. Elle voit qu'ils sont ensemble, la main dans la main. Et se dit,
il a vite oublié la pauvre fille.
Elle passe plusieurs jours à les espionner.
Heureusement qu'il y a de la place sur la vue. Brigitte marche à pied. Elle la voit appuyée sur l'interphone d'un vieil immeuble bourgeois.
Non, elle se trompe. C'est un immeuble neuf.
Elle va garer sa voiture.
Le boulevard est vide, les circulations, il y en a très peu, donc elle a pu garer sa voiture facilement. Et d'un bond, elle est derrière Brigitte. Brigitte appuie sur la porte de l'allée.
elle tient la porte pour entrer et entre en même temps. Même temps que Brigitte, qui croit que c'est une habitante de l'immeuble. L'allée est vide. Brigitte va vers l'ascenseur. Elle appuie sur le bouton pour le faire venir. Et attend. Madame Beaulieu est derrière elle. Elle sort de la poche de sa veste un revolver. Elle a tiré. Et Brigitte est tombée en avant. La balle a touché le haut de la tête. Madame Beaulieu lâche l'arme. Et se sauve en courant. Sortie de l'immeuble. Elle voit, comme dans un brouillard, va vers sa voiture pour la prendre. Une voiture Rolls noire arrive à fond de train, fonce sur elle, la fait tomber. L'écrase en passant dessus. Elle est morte d'un coup. Dans la Rolls, il y avait la dame en noir. Le bruit, le coup de revolver, l'accident de voiture, les gens se sont mis aux fenêtres de l'immeuble et vont voir dans l'allée. On appelle la police. La police prend les corps. Les témoignages, l'identité des victimes. Bien entendu, en trouvant les cartes dans les vestes de la victime. Les victimes sont allées, les corps en tout cas sont allés à la mort. Judith, de suite, téléphone au ministre de la Justice chez lui.
Allô, monsieur le ministre ?
Oui, madame.
Je m'excuse de vous déranger, mais je suis Judith Lair. Téléphone, parce que nous avons eu dans notre quartier et dans un de nos immeubles un incident. La police est venue sur les lieux comme c'est leur devoir.
De quoi s'agit-il ?
Oh, rien de bien important. Disons, un simple incident, rien. Malgré tout, de mort violente. je vous téléphonais, c'est pour vous dire que cette affaire est... doit être prise comme une histoire interne franc-blanc. Mes hommes en noir s'en occuperont. Je vous demande, c'est de laisser tomber. Le ministre lui dit, bien madame, je vais donner des ordres. Ça nous donnera du travail en moins. Des cadavres, nous en avons autant que nous en voulons pour nous occuper. Merci, monsieur le ministre. Et elle raccroche. On découvre, grâce à leur carte, le nom des victimes. Le mari, qui est en voyage d'affaires en Amérique, apprend par fax la mort de sa femme et les circonstances de sa mort. Monsieur Beaulieu est effondré. Il rentre à Paris de suite.
Vous avez mon numéro de téléphone. L'avion est en train d'atterrir. Où est Stasi?
Il est rentré de suite à Paris. On lui présente à la morgue le corps de sa femme qui est mort à cause d'un chauffard. Il prend le corps. Pour le ramener dans son pays. Pour l'enterrer dans son pays. Mais il comprend ce qui s'est passé. Parce qu'il a lu dans les journaux qu'une jeune fille était morte d'un coup de revolver dans un immeuble. Près où a eu lieu l'accident de sa femme. Il se dit... Elle ne m'a pas écouté. Elle a tué la fille. Elle s'est fait tuer. L'allée où elle a été tuée est l'allée de Judith. Moi aussi, je risque d'être tué. Il est effondré. Il se dit que c'est Judith qui a dû la faire tuer lorsqu'elle a su ce qu'elle avait fait. Il la ramène dans son pays en corbillard, effondré. Il a peur pour lui. Puis, en revenant de voyage, trouve une convocation de la police. Il n'a pas retrouvé Judith chez lui. Mais pense qu'elle a dû sortir. Il va à la convocation. Là, le commissaire lui dit avec ménagement que la jeune fille qui vivait avec lui car il l'a appris à cause de l'adresse de qui sur sa carte qu'elle avait mise. Elle a été tuée d'une balle dans une allée. Et que son assassin a disparu. On ne sait pas qui est. Cliff est effondré. Il pense que c'est Terme qui a fait ça. Il ne pense pas à demander dans quelle allée elle a été tuée. On lui demande s'il veut voir le corps. Il dit oui. On le mène à la morgue.
Là, Brigitte, un pansement sur la tête. Il est effondré. Il dit qu'il viendra chercher le corps. Dès qu'il sera, il faudra l'enterrer. Et après, il se met à courir chez Judith. Oui, Judith, sa seule amie. Il sonne à l'interphone. Elle est chez elle. Elle le fait rentrer. À peine entré, il tombe dans ses bras et lui dit: j'y tenais plus. Elle lui caresse les cheveux, l'embrasse. Pauvre petit. Il lui dit: où mettre le corps? Elle lui dit: je vais m'en occuper. Ne fais pas de soucis. Reste chez moi. Elle lui dit: non, j'aimerais mieux c'est entrer chez moi. Bien. Je vais prévenir la Franc-Blanc. Il revient demain pour les funérailles. Il rentre chez lui. Tout lui rappelle Brigitte. Elle lui devient insupportable. Passe la nuit dans un fauteuil à pleurer. Et le lendemain aussi. Puis, il retourne chez Judith. Lui dit qu'elle a tout arrangé pour les obsèques. Il préfère que ce soit elle qui s'occupe de l'enterrement. Elle lui dit, c'est que on l'enterrera au Père Lachaise. Il s'est dit, il décide, c'est de rester jusqu'à l'enterrement près d'elle. L'enterrement a lieu. Elle s'est occupée de tout. Elle est sortie de la morgue, la messe, le cimetière, la lapin, les gens du siège, le fils Franc-Blanc, Gilbert, Serge, François, Mathieu, Alexis, avec sa famille, toute la famille Prudent est là, tous sont là, et même Monsieur de Jean-Jus. Elle a eu un bel enterrement.
puis, triste,
et retourner avec Judith, pleurer. Puis, le lendemain, il lui dit qu'il veut rentrer chez lui. Il lui dit, je dois continuer à vivre. Oui, à vivre. Pas pour moi-même, mais pour elle. Elle lui dit, si tu veux, mais tu peux travailler quand tu voudras et revenir me voir aussi. Il l'embrasse et la quitte. Cliff passe son temps à pleurer et à penser à Brigitte. Terne, à Lyon, a appris la nouvelle. Il est furieux et se dit que c'est la faute à Cliff si elle est morte, celle qui lui était promise, celle qui devait lui donner une descendance. Il est furieux et décide, c'est de tuer Cliff. Le manoir est dans son bureau avec Judith. Il lui dit, tout s'est bien passé comme nous l'avions prévu. Dès que vous nous avez prévenu que Madame Beaulieu avait l'adresse de Recourtois, nous avons surveillé Recourtois. Et Madame Beaulieu, Cliff a été envoyé en mission en province. Nous avons téléphoné à Brigitte pour l'inviter à passer la soirée chez vous. Nous mettons devant la maison la Rolls de notre ami. Et Madame Beaulieu tue Brigitte comme prévu et nous la tuons. L'incident est clos. Cliff est sauvé. Brigitte lui dit, peut-être, mais il reste encore l'oncle, et Cliff, lui-même, il déprime, ne veut plus rien faire. Le manoir lui dit, ça lui passera. Laissez-le faire son deuil. Est effondré. Il ne fait plus rien et reste chez lui à pleurer. Il a écrit une lettre à sa mère pour lui dire tout ce qui lui est arrivé et lui dire qu'il n'a plus goût à rien. Le groupe est ennuyé que Cliff ne fasse plus rien. Maurice Tremblant
fait venir dans son bureau Judith.
Et lui dit, faut faire quelque chose pour Monsieur Rose Courtois. Il ne peut pas rester comme ça. Le groupe a besoin de lui. Allez le voir et essayez de le réconforter.
Il faut qu'il fasse son deuil, monsieur. Mais je vais essayer.
Et le soir, après son travail, elle sonne à l'interphone de Cliff.
Oui, c'est moi, Judith. Est-ce que tu peux me recevoir?
Il dit.
Viens, entre.
Elle entre dans l'allée. Prends l'ascenseur. Qui monte à l'étage. Sort de l'ascenseur. Et va sonner chez lui. Il lui a ouvert, la mine défaite, en caleçon et t-shirt. Elle lui dit,
bonsoir.
Entre. Elle entre. Elle l'embrasse sur la joue. Et lui demande,
tu vas bien?
Il hausse ses épaules. Elle voit que l'appartement est dans le noir. Elle lui dit,
tu me fais entrer dans ton salon ou ailleurs?
Il lui dit,
viens.
Elle voit qu'il a les pieds nus. Il entre dans le salon. Il est clair.
Demande, tu vis dans le noir?
Il lui dit,
oui, la lumière me fait mal aux yeux.
Elle lui dit,
c'est parce que tu ne sors pas et que tu pleures trop.
Il le prend à l'épaule et lui dit,
écoute Cliff, je sais que tu as une grande peine, mais tu as envie et tu dois vivre. Vive. Pour toi, pour ceux qui t'aiment, et aussi, surtout pour elle. Je suis sûr qu'elle n'aurait pas aimé te voir comme ça.
Il lui dit,
qu'est-ce que tu en sais? Tu ne la connaissais même pas.
Elle lui dit,
peut-être bien, mais je sais ce que ressent les gens qui s'aiment. Et je sais que si Brigitte t'a aimé, elle a dû beaucoup t'aimer. Eh bien, elle ne voudrait pas te voir comme ça. Faut réagir, vivre. Si elle t'a aimé, c'est parce que tu étais vivant. Autrement, elle ne t'aurait pas aimé. Son Cliff vit. Et toi, tu dois vivre pour elle. Pour son souvenir.
Il lui dit,
c'est pas facile. Toi, tu n'as jamais aimé comme ça.
Elle lui dit, tu n'en sais rien. Tu dois arrêter de vivre dans un tombeau. Ouvre ta fenêtre. Fais entrer la vie. Sors.
Il lui dit, et ça fera quoi de plus?
Elle lui dit,
ça ne te rendra pas plus heureux pour le moment, mais ça te fera vivre. Tu n'as pas le droit de vivre comme un mort tant que tu vis. Laisse les morts vivre leur mort. Et toi, eh ben, vis ta vie. Il ne dit rien.
Il
réfléchis à ce que je t'ai dit et pense comment t'aimais Brigitte. Après, retourne à la vie. Si tu as besoin d'aide, tu sais que tu peux compter sur moi. Alors, il lui dit, je ne sais pas. Tout d'un coup, il se met à elle le prend à l'épaule, lui met la tête sur sa poitrine et lui dit, allez, pleure un bon coup. Après, je vais te préparer quelque chose à manger. J'ai pas faim. Et puis, j'ai pas grand chose. Elle lui dit, tiens, viens, assieds-toi. Elle le fait asseoir sur une chaise et le laisse. Va à la cuisine. Éclaire. Et regarde, la vaisselle n'a pas été lavée. Il y a plein de vaisselle sur la table et l'évier. Des boîtes de biscuits ouvertes. Une boîte de lait entamée. Ouvre le placard. Il n'y a presque rien. Du riz, des pâtes. Des haricots en conserve. Ouvre le réfrigérateur. Il est vide. Elle décide, c'est de lui faire du riz. Le lui prépare. En attendant que ça cuise, elle retourne vers lui. Il demande, demain, c'est toi qui fais les courses ou c'est moi? Il dit, j'aime mieux que ce soit toi. Qu'est-ce que je prends? Je sais pas, une pizza. Elle lui dit, bon, j'ai racheté du thon, de la salade, des légumes, des laitages, jus de fruits, et puis des beefsteaks, de la confiture, de fraises. Elle voit que la partie est gagnée et qu'il accepte. Elle fera les courses. La pizza lui a donné l'idée d'en commander deux pour ce soir. Ils ont passé la soirée ensemble. Après avoir mangé, elle lui parle de Serge, de la lapin, pour le distraire. Puis il lui fait écouter de la musique et ensuite elle le fait se laver. Est au lit, le borde et l'embrasse. Lui dit, je ne peux pas rester ce soir pour un câlin. Il lui sourit et lui dit, merci. Elle sait que c'est gagné. Sa déprime provenait surtout parce qu'il ne mangeait plus. Il n'y avait personne à qui parler. Je reviendrai demain soir. Repose-toi.
Et elle le laisse.
Il a à peu près bien dormi. Les jours passent. Il va un peu mieux chaque jour. Judith lui donne du réconfort, le fait manger et se laver. Ouvre les volets et le distrait. Mais ce n'est pas encore ça. Il se sent faible et a toujours le cafard. Un après-midi, on sonne à son interphone. Il va voir. Oui, c'est maman. Et Didier, il lui dit, vous êtes là? Oui. Nous pouvons entrer? Il lui dit, oui, bien sûr. Il a fait entrer, surpris et heureux. Ils sont là. On a sonné à la porte. Il va ouvrir en caleçon et t-shirt, mais propre. Il fait entrer. Sa mère l'embrasse. Didier aussi. Il leur dit, je suis heureux que vous soyez là. Ta mère lui demande, comment vas-tu? C'est-à-dire que nous venions à peine de nous retrouver et elle, c'est terrible, mère. Didier lui dit, je comprends. Nous sommes là pour te soutenir et t'aider. Merci. Judith, aussi, essaye de me remonter le moral. Ta mère lui dit, elle m'a l'air d'être une bonne femme. Cliff lui dit, oui, elle m'a toujours aidé. Mais allons au salon. Entrez. Vous voulez boire quelque chose? La mère lui dit, oui, du thé. Didier lui dit, moi aussi. Cliff leur dit gêné, je ne sais pas faire le thé. J'en prenais lorsque Brigitte était là, parce qu'elle savait le faire, et puis lorsque Judith est là aussi, elle en fait. Sa mère lui dit, eh bien, je le ferai. Cliff lui dit, tu sais faire la cuisine, maman? Ta mère lui dit, bien sûr, mon chéri. Dans mon pensionnat de jeunes filles, on nous apprend à faire la cuisine, la broderie, monter à cheval, jouer au tennis et le thé. Je suis une femme du monde, accomplie. Didier dit, c'est pour cela que je lui fais la cour et que je vais souvent prendre le thé chez vous. Ils se mettent à rire tous les trois et Mélusine embrasse Didier en lui disant « Oh, si j'avais quelques années en moins, je me marierais avec toi. Tu es le garçon le plus séduisant qui soit. Montre-moi ta cuisine. » Et Cliff va lui montrer sa cuisine. Voilà, mère, c'est ici. Et ils se sentent plus détendus maintenant qu'ils sont là. Ils font tout pour le détendre. La mère fait des rangements. Didier lui demande quels sont les lieux à voir à Paris. Bien sûr, on lui demande comment s'est passé ce terrible drame. Chief leur dit ce qu'il sait. En réalité, je ne sais rien. Didier lui demande. Dans quelle allée s'est passée la chose? Cliff réfléchit et lui dit. Je m'en souviens plus. Attends. Il cherche le journal où on parle de la chose. Ah, il le retrouve. Regarde le journal où c'est écrit un article sur le drame. Et là, il voit que c'est dans l'immeuble du Judith. Il est surpris. C'est dans l'immeuble de Judith. Didier lui dit, c'est peut-être une coïncidence. Il lui dit, il y a aussi quelque chose dans l'article. Madame Beaulieu a été tuée par un chauffard dans la rue où habite Judith, à quelques mètres de chez elle. C'est étrange. Les Beaulieu me détestent. Oui. Tu sais ce qu'ils ont fait à leur propre fille. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit eux. La femme Beaulieu a tué Judith, puis s'est enfuie de l'allée et elle a été tuée par un chauffard parce qu'elle traversait la rue. La mère arrive. Elle leur demande, que se passe-t-il? Didier lui dit, Cliff pense que c'est Beaulieu et sa femme qui ont tué Brigitte. Et lui demande, tu as la certitude de ce que tu dis? Pas vraiment, mais tout coïncide. Et il lui explique. Il lui dit, je vais me venger. Je vais tuer ce salopard qui a tué les deux jeunes filles que j'aimais. Même sa propre fille. Il est furieux et lui dit, calme-toi. Je vais en parler en franc blanc. Il lui dit, et moi, à Judith.
Téléphonie pour rendez-vous avec Franc Blanc. Il la reçoit le lendemain matin dans son bureau. Elle lui explique ce que pense Cliff. Franc Blanc lui dit, ça ne m'étonne pas de Beaulieu. Que votre fils ne s'inquiète pas, il sera vengé. Et pour le moment, nous ne pouvons rien faire parce que nous avons besoin de lui. Elle dit à Cliff ce que lui a dit Franc Blanc. Cliff est furieux.
vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, Pierre. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.